Il est 17h passé de 12 minutes sur Radio PFM. Nous sommes en direct du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, au 1er mai, dans la cour de l'Hôtel de Ville. Dernier rendez-vous en public et en direct pour ce partenariat entre Radio PFM et Colère du Présent qui organise ce Salon du Livre. Et pour ce dernier rendez-vous, c'est aussi un partenariat entre Radio PFM et l'association 813, l'association des amis des littératures policières. Donc c'est avec Hervé Delouche, le président actuel de cette association, que nous allons animer cette rencontre. Et nous avons la chance d'accueillir un ancien président de l'association 813, François Guérive, qui dirige les éditions Rivage Thriller, Rivage Noir. Et nous recevons aussi Oliver Gallmeister, qui dirige, lui, les éditions donc Gallmeister. Dans le programme étaient annoncées les éditions 13e note avec Eric Vielgeux, mais il n'a pas pu venir à Arras, et donc il nous demande de l'excuser pour cette absence. Voilà, le thème de cette rencontre, édité du noir, je dis rencontre, on pourrait dire débat, et quand je dis édité du noir, je pense que d'entrée de jeu, je pourrais susciter un débat, parce que pourquoi du noir? Pourquoi pas édité du polar? Pourquoi pas édité du roman policier? Pourquoi pas édité des littératures policières? Mais nous nous limiterons à éditer du noir, puisque la collection de poches de Rivage s'appelle Rivage Noir, et la collection consacrée à ce genre chez Gallmeister s'appelle aussi Noir, la Noire. Donc nous n'entrerons pas dans ce débat-là, mais nous aborderons donc avec nos deux invités la question de l'édition, hein, au cours de cette journée, au cours de ce salon, au cours des différents rendez-vous sur PFM, des différents débats. Ce sont surtout les auteurs qui ont la parole, et nous avons décidé de donner aussi la parole à ceux qui permettent à ces auteurs d'être tout simplement lus. Donc l'idée première, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer le fait du choix d'éditer plus particulièrement un genre en particulier, donc c'est, messieurs François Guérif et Oliver Gallmeister, comment en êtes-vous arrivé à éditer, à devenir éditeur et en particulier éditer du noir? François Guérif.
Ça remonte à longtemps. Je veux dire que moi, c'était un choix à l'époque plutôt plus difficile sans doute qu'aujourd'hui, parce que je rappelle que quand j'ai commencé dans l'édition, c'est en 1978, donc ça fait 36 ans, et qu'il y a 36 ans, évidemment, vous ne devez pas vous en souvenir, mais à l'époque, c'était le moment où toutes les grandes collections de romans policiers, de romans noirs reculaient en France, où la série noire, où la collection Un mystère, où etc. Diminuaient de moitié leur parution pour finalement peu à peu disparaître. Et que c'était le moment de l'explosion de la science-fiction, et que on disait, on pouvait lire dans les journaux, et qu'on disait dans les milieux professionnels, écoutez, le polar c'est mort, la littérature populaire de demain c'est la science-fiction. Donc moi, mon engagement dans le noir, ça a presque été quelque chose de, comment dire, de militant, en disant non, c'est pas vrai, le roman noir n'est pas mort. Et deuxièmement, il y a énormément d'inédits de grands auteurs qui ne sont pas parus. Et puis troisièmement, on a traité ce genre de façon un petit peu malhonnête, dans le sens où les traductions étaient tronquées, où on estimait que c'était une sous-littérature. Donc voilà, ça a correspondu à toute une espèce de mouvement avec des auteurs de policiers. C'est aussi d'ailleurs à ce moment-là qu'est créé 813. Hein, donc il y a une espèce de petit mouvement qui s'est créé un peu autour de la librairie au troisième œil que j'avais fondée, où d'un seul coup, tous les gens qui se sentaient d'une certaine façon en péril par rapport à une littérature populaire qui, soi-disant, était en train de disparaître, se sont regroupés pour unir leurs forces. Et voilà, quoi. Et c'est comme ça que le choix du noir s'était imposé à moi. Et j'ai pas arrêté depuis.
Hervé ?
Oui, je voudrais demander à François, il y a donc ce que tu as raconté qui t'amène à tes premières activités éditoriales, il y a Clancier Guénot, il y a Red Label, des collections, il y a Engrenage International qui nous font déjà découvrir des auteurs que tu aimes, notamment anglo-saxons, mais arrive en 86, je crois, commence l'aventure qui va de Rivage Noir, qui va aussi donner Rivage Thriller. C'est excellemment raconté par un livre très vivant que François Guérif a publié il y a quelques mois, qui s'appelle Du Polar, des entretiens avec le journaliste Philippe Blanchet. Mais est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça commence chez Rivage et comment ça va se transformer dans la belle aventure que nous connaissons?
Oui. Alors, je tiens quand même à préciser que même chez Red Label, il y avait un auteur français, hein, c'était Michel Lebrun. Oui. Bah, ce qui est arrivé, c'est que, curieusement, donc, quand dans cette collection, la première collection Red Label, j'amène des inédits de gens qui étaient connus, des amateurs comme David Goodis, comme James Cain, comme Robert Bloch, Frédéric Brown. Là, j'ai un soutien de la presse, c'est vrai, assez fort. Il y a ce regroupement de gens qui aiment ce genre. Mais bon, commence aussi un peu les montagnes russes. C'est-à-dire que PAC fait faillite, la collection Red Label en numéro 25. À ce moment-là, je propose de faire une collection semblable chez Fayard, parce qu'il lance une collection qui s'appelle Fayard Noir avec de la Corta. Le polar, à ce moment-là, est lui aussi sur des montagnes russes, c'est-à-dire qu'il y a un renouveau d'intérêt, et puis il y a un côté un peu snob, en effet aussi, qui se met. Il y a quelqu'un qui apparaît qui s'appelle De La Corta, il fait un livre qui s'appelle Diva. Le Diva est un phénomène, pas littéraire, mais en tous les cas, marche très bien. Il y a le film de Jean-Jacques Benex, enfin, etc. Et Fayard lance une collection, ils me disent non, faites le volet étranger de Fayard Noir. Et puis Fayard Noir s'arrête au 22e numéro parce que Jean-Claude Lattès décide de l'arrêter. À ce moment-là, le Fleuve Noir me dit mais pourquoi vous n'êtes pas venu chez nous ? Donc je refais le domaine étranger d'une collection française qui s'appelle Engrenage. Et au bout de 2 ans et demi, pareil, la collection s'arrête. À ce moment-là, moi, j'ai pris un travail comme journaliste dans un journal de vidéo et je me dis, bon, c'est fini, quoi. Et c'est le hasard. J'ai toujours eu cette chance. C'est-à-dire que, d'un seul coup, dans ce journal, est arrivé un jour un monsieur qui s'appelait Edouard Dandris qui dit, voilà, nous avons créé avec mon cousin une collection, une édition qui s'appelle Rivage, que vous devez connaître. Malhonnêtement, j'ai répondu oui, alors que j'avais aucune idée de ce qu'étaient les éditions Rivage. Il dit, voilà, nous publions surtout... Alors, à l'époque, c'était les chambres d'hôtes des livres de tourisme et une collection de littérature étrangère. Et nous aimons beaucoup le roman policier, le roman noir américain. Et nous aimerions faire une collection. Quitte à faire une collection, on s'est dit qu'il faudrait un directeur de collection. Et quitte à choisir un directeur de collection, on a vu ce que vous avez fait précédemment. Et voilà. Et franchement, à l'époque, j'ai pas dit oui tout de suite. Et c'est ma femme qui m'a dit, bah, écoute, fais-le. Tu sortiras encore 25 inédits. Et puis voilà. Et puis ça prenait un peu le chemin parce que, bon, toujours pareil, l'économie du livre de poche, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais, et j'ai eu la chance, par contre, là, est arrivé le miracle que tout éditeur attend. C'est-à-dire que j'ai acheté les livres d'un inconnu. C'était un gros pari qui s'appelait James Ellroy. Et puis que le premier livre de Ellroy a décollé et a fait. Exploser, pas d'autre mot, la collection, qu'il a apporté évidemment l'oxygène financier nécessaire, et que du coup on a créé Rivage Thriller et tout. Donc voilà, ça a été petit pas par petit pas jusqu'à cette collection.
Oliver Gallmeister, toi c'est 20 ans après la création de Rivage Noir en 2006 que tu crées la maison qui porte ton nom. Comment ça se crée ? Quel est le signe d'identité qui va devenir une identité forte de la maison ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Et puis aussi de la place que le noir va prendre.
Je ne vais pas répondre à cette question-là, en fait. Je vais juste
très bien.
Suivre ce que disait François. À un moment, tu as dit que tu as créé tes premières collections dans un esprit presque militant. pour montrer qu'il y avait une littérature noire, etc. Quand tu as créé ça, moi j'avais 8 ans. Histoire de, de contextualiser voilà. Un peu les choses. Moi, les premiers polars que j'ai lus, c'était au moment de la création de Rivage. Et avec l'écart d'âge qui est le nôtre, ce qui est très intéressant, c'est que à ma génération, donc moi j'ai 44 ans, la question ne se pose plus du tout. Je crois que, et ça c'est le travail que tu as entrepris avec d'autres, avec voilà, 813 et notamment, mais c'est que lorsqu'on aime la littérature, on aime la littérature noire, point barre. On aime toute bonne littérature. La question de littérature blanche ou noire, c'est une question plus ou moins technique, mais pour moi, il ne fait aucun doute que voilà, James Ellroy, que j'ai découvert quand j'avais 18 ans, est un des plus grands écrivains américains, point barre. Voilà, c'est pas du tout une question de genre. Donc, en tant que jeune éditeur, en fait, au départ, je ne pensais pas que j'allais faire une collection noire. C'est simplement parce que je ne pensais pas que j'en serais capable et que... voilà. Mais ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, il se trouve que, pour moi en tout cas, le noir, c'est une sensibilité littéraire. Et le fait de dire qu'un livre est noir ou blanc, de le mettre dans une collection noire, une collection blanche, c'est un truc d'éditeur. Fondamentalement, l'écrivain, déjà, ça ne marche pas comme ça aux États-Unis. Il n'y a pas cette notion de vous voyez des livres sur les tables qui sont mélangés. Il y a des sections crime dans les librairies, mais il y a aussi sur les tables principales, on mélange des livres de James Ellroy avec des livres de Philip Roth. Voilà. Et moi, j'ai suivi ça complètement instinctivement, sans poser de questions. Et après, j'ai adopté une collection noire, appelée Noire, parce que c'est le jeu du marché. Mais c'est pas, on n'est pas du tout dans le même contexte que celui dans lequel François a lancé ça. Et je pense que tous les éditeurs de ma génération, en fait, sont redevables à François de ça, en fait. Sachant que maintenant, tu parlais des montagnes russes et avec la SF, etc. Maintenant, il faut savoir qu'un roman sur trois qui est publié en France est un polar. Tout le monde fait des polars. Même des maisons d'édition scientifiques font des polars. Il y a des polars régionaux, il y a des polars médicaux, il y a des polars... Enfin, donc ça, du coup, ça ne veut plus dire grand-chose en réalité. Moi, je préfère parler de littérature, tout simplement.
Je crois que c'est un peu ce qui nous réunit tous ici et c'est un point commun entre vous deux, en tout cas, c'est clair.
Alors, justement, moi, je voudrais revenir sur le processus qui vous a amené à devenir éditeur. Bon, pour moi, un éditeur, c'est d'abord un lecteur, donc un lecteur qui a envie d'aller plus loin, peut-être parce qu'il ne trouve pas dans les différentes collections qui existent ce qu'il a envie de lire. Mais je pose aussi la question, pourquoi pas auteur ? Pourquoi on fait le choix de devenir éditeur ? Est-ce que c'est parce que on s'est dit qu'on avait envie d'écrire et puis finalement ben on préfère pour des X raisons éditer. François Guérif.
Bah écoutez, simplement je suis pas auteur. Hein. Je veux dire, j'ai le sentiment de ne pas avoir grand chose à dire. Je me suis essayé dans mon jeune âge. J'ai fait quelques nouvelles qui ont été publiées, un roman d'horreur. Mais je me suis dit que c'était pas ça. Pourquoi éditeur ? Au départ, c'est vraiment une passion. En fait, ce qui m'a amené à l'édition, c'est un jour, je suis tombé sur un livre. Enfin, c'est même pas un livre, c'est un catalogue d'un type qui s'appelle Matthew Hubin. Et j'ai regardé, ce n'était que des bibliographies. Et je me suis rendu compte que parmi les auteurs que je mettais vraiment très très haut, qui s'appelait David Goodis, qui s'appelait Jim Thompson, pour ne citer que ces deux-là, je me suis rendu compte qu'il y avait, par exemple, 22 Thompson inédits, qu'il y avait 10 Goodis inédits, il y avait 7 James Kay inédits et tout, et je me suis dit, mais pourquoi ces livres n'ont pas été publiés ? Et j'ai eu, premièrement, le désir d'arriver à trouver des exemplaires, ce qui n'était pas simple, et quand je les ai lus, je me suis dit, mais c'est pas possible que ces livres ne soient pas connus, ne soient pas amenés. Et c'est cette passion pour ces auteurs, et donc à l'époque pour ce genre, qui a fait que, alors en même temps c'est un peu, la question est un peu biaisée, que j'ai pu créer ma première collection parce que j'étais auteur, mais de biographie de cinéma, chez un éditeur. et qui s'appelait Pâques. Et moi, j'avais fait, ils avaient une collection qui s'appelait Tête d'affiche. J'ai fait un livre sur Paul Newman, hein, qui a été un best-seller. Et les pauvres, ils se sont dit, ce garçon a de l'or dans les mains, donc qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc ils ont, ben, j'aurais dit, je veux faire une collection de romans policiers. Et je vous jure, c'est une histoire vraie. Et en 78, donc nous étions distribués par Hachette, et le jour où on a présenté aux représentants les quatre premiers, qui étaient quand même Goodis, Robert Bloch, Frédéric Brown et James Cain, le chef des représentants nous a dit, mais mon pauvre ami, vous êtes complètement fou. Plus personne ne lira jamais David Goodis aujourd'hui. Plus, ce sont des gens, c'est fini. Voilà. Et et puis de fil en aiguille, il y a eu un intérêt de la presse. J'ai été soutenu par des gens comme Manchette, en fait, etc. Et puis après, ça c'est presque venu naturellement. Mais alors en même temps, moi, ça me va très très bien d'être éditeur. Je trouve ça un peu comme un producteur de cinéma. Justement, je ne suis pas un écrivain. Je ne suis pas un auteur. Je ne suis pas frustré parce que j'arrive pas à m'exprimer comme auteur. Mais par contre, je trouve une vraie satisfaction à faire connaître des gens à un public qui ne les connaissait pas. Et puis, après avoir publié les inédits, et à révéler un certain nombre de gens au public français. Je trouve ça très gratifiant.
Oliver Gallmeister, sur ce cheminement, lecteur, éditeur, lire, écrire, éditer.
Pareil. Je sais pas quoi dire après ça, mais non, moi j'ai jamais eu envie d'écrire plus que ça, j'ai rien à dire. Je pense que chez les éditeurs, on est tous un peu collectionneurs, et moi je publie les livres que j'ai envie de lire. Voilà, et voilà, c'est tout. Et notre métier, c'est d'être lecteur professionnel, et donc on fait la même chose que ce que vous faites tous quand vous lisez, sauf que nous, voilà, on s'approprie les livres pour essayer de les faire partager de manière la plus vaste possible. Mais sinon, c'est exactement ça. C'est le bonheur de recevoir un mail d'un lecteur ou d'une lectrice qui dit « Ah voilà, j'ai lu tel livre, ça m'a touché. » Voilà. Nous, on est juste là. Et c'est surréaliste de se dire que des auteurs ont été exhumés par François, des auteurs ont été découverts par François ou par moi, et qui voilà maintenant touchent le cœur des gens alors qu'ils ont écrit leur truc il y a un demi-siècle ou il y a 10 ans dans une cabane on sait pas où, et voilà, ça je trouve que c'est un peu magique.
Il y a un mot qui de toute façon est essentiel et qui vous est commun, François l'a employé tout à l'heure, et toi Oliver, c'est tu l'employais dans cette phrase que je vais vous lire, que tu donnais dans une interview à 813 il y a quelques années, c'était: Le métier d'éditeur n'est somme toute pas un métier très compliqué, mais il faut que ce soit un métier de passion. Et ça me semble tout à fait résumer votre entreprise à tous les deux. Et ça, c'est personnel, je ne suis pas sûr que cela motive tous les éditeurs ou directeurs de collection de romans, fussent-ils noirs ou polars. Mais la passion avant tout.
Non mais on peut être bon.
Vous
que
pouvez
si
commenter.
On est pas... Non mais on peut être bon que si on est sincère, en fait, c'est ça le truc qu'on comprend, je crois, quand on est éditeur depuis moins longtemps que toi, mais un petit peu quand même. Tu peux pas convaincre les gens de lire un livre si toi-même tu n'es pas persuadé que ce livre est le meilleur livre du monde. Donc tu peux pas tricher, tu peux sans doute gagner de l'argent, mais tu peux pas être un bon éditeur si tu triches. Voilà, c'est ça que je voulais dire quand je dis que c'était pas compliqué.
Impeccable.
Note. Alors justement, bon, on parle du meilleur livre du monde. C'est quoi pour l'éditeur que vous êtes, un bon livre, un très bon livre ?
J'ai déjà dit, un bon livre, c'est un livre qui a une écriture, qui a une voix, qui a une âme, bon, c'est tout. Justement, dans un genre populaire, c'est très intéressant, ça, parce que j'ai rencontré, mais je ne sais combien de fois, des gens qui disaient, bon, alors, pour faire un bon polar, faut quoi ? Alors, faut un serial killer, faut une femme fatale, faut un meurtre, faut... Et je leur répondais toujours, faut... J'en sais rien, ça peut être dedans. Il faut une écriture. Les Américains appellent ça a voice, une voix. C'est ça. Moi, c'est vrai que chez Rivage Noir, et je m'en vante, il y a des livres où il se passe beaucoup de choses, et il y a des livres où il se passe rien. Un des premiers que j'ai publié, c'est « Comme un rat mort » de Jan Willem van de Wettering, un des rares écrivains noirs zen. Et c'est vrai que pendant 500 pages, vous avez les deux flics hollandais qui sont perdus en frise et qui passent leur temps à boire des coups, à philosopher sur le monde et à nourrir le rat qui, de leur copain qui vit dans la cave. Et le livre, en même temps, est quand même absolument extraordinaire. Donc il faut une écriture, c'est pas autre chose. C'est pour ça qu'il a raison, Oliver. Il faut, d'abord, c'est vrai qu'on publie des livres qu'on a envie de lire. Et c'est là où, par contre, toute une conception de l'édition qui dit « Ah oui, mais là, vous savez, comme c'est comme les bibles des films télé, ah oui, mais là, ça va pas, c'est trop long, faut couper, faut ceci, faut cela et tout », c'est ridicule. Et bon, je fais un aparté, parce que c'est de ça qu'a souffert l'édition, justement, du roman populaire en France, du roman policier. C'est que trop souvent, les éditeurs qu'il traitait uniquement comme un produit, finalement, standardisait le produit parce que il fallait qu'il y ait de l'action. Attends, là, il y a trop de psychologie, donc on coupe les 10 pages où le type, il se parle dans sa tête. Là, par contre, c'est ridicule. Il faut une voix.
Et d'ailleurs, les auteurs qui, moi, personnellement, me touchent le plus sont quasiment toujours des auteurs avec des défauts, alors, qui ne font pas des livres parfaits. Un livre que j'ai publié qui s'appelle Le gant de la molette, c'est un livre qui est mal construit, qui a des longueurs, mais l'écriture d'Edouard Abi, voilà, moi, me touche au cœur et je pense que le livre, je ne changerai pas une ligne. Si on prend les chefs-d'œuvre de la littérature, on peut facilement dire qu'il y a des passages dans Les Misérables qui ne sont pas forcément indispensables et qu'un éditeur consciencieux aurait sans doute supprimé. Mais ça ne serait pas le même livre. Voilà, il y a Sacha Elroy, je suis sûr. Non ? Donc, il ne faut pas chercher des livres parfaits, il faut chercher des livres qui nous touchent. Voilà. Pour moi, c'est ça un bon livre.
On saisit très bien à vous entendre qu'il y a une filiation très claire entre vous. On la voit à travers le fait aussi que vous procédez tous les deux à des rééditions accompagnées de révisions ou de retraductions de textes. Je pense évidemment à Jim Thompson et les retraductions faites, commanditées par François Guérif chez Rivage, ou à Ross MacDonald retraduit chez Oliver Gallmeister. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'étaient ces textes et pourquoi il était essentiel de faire ce travail-là, comme justement quand on est touché et quand on aime la littérature ?
Oh bah, c'est un sujet polémique qui m'a valu d'être en froid avec Gallimard, mais c'est pas grave. C'est clair, simple et net. Si vous lisez, il y a eu des versions françaises de grands livres qui sont tout simplement non seulement appauvrissantes, mais parfois scandaleuses et obscènes. Voilà. Donc c'est tout. Jim Thompson, c'est intéressant ce que disait Oliver quand il dit très souvent c'est pas des livres parfaits. Thompson est l'exemple même de ça. C'est un auteur dont on pourrait dire que tous les livres sont mal foutus d'une certaine façon. Sauf qu'il y a une voix, une force absolument extraordinaire. Et quand je découvrais les versions françaises, je m'en rendais compte que des choses entières avaient disparu qui, pour moi, étaient essentielles. L'assassin qui est en moi, par exemple, qui s'appelait Le démon dans ma tête en série noire, si vous vous contentez de décrire, le type lui-même décrit ses assassinats, vous allez avoir une série de meurtres qui vont peut-être vous écœurer en disant c'est un peu gratuit. Si vous coupez la moitié de l'assassin qui est en moi, de ce que se dit ce type dans la tête et qui explique, sans les justifier, pourquoi il agit comme ça, c'est pas le même livre. C'est absolument effarant ce qui s'est passé. J'ai découvert ça au fur et à mesure. Je voulais pas le croire, que ce soit Wesley, que ce soit Hammett, que ce soit Chandler, 100 pages de coupé quand même dans The Long Goodbye la première fois. Je suis désolé, c'est un fait. Je l'ai dit et je le redis. Je ne suis pas en train de faire le justicier et de dire... je peux très bien comprendre que l'économie du livre de poche à l'époque, c'était des collections populaires, les traducteurs n'étaient pas très bien payés, il y avait des impératifs économiques. Ça a été comme ça à la fin des années 40, des années 50 et 60. Bon, c'est dommage, mais c'était... On ne va pas réécrire la vérité, la réalité. Mais par contre, ce que je trouve scandaleux, je continue à le dire, c'est que la plupart de ces traductions, c'est ce que vous achetez aujourd'hui en folio. Parce qu'au lieu qu'on exploite d'un seul coup, évidemment. On repart, il y a un film de Alain Corneau ou de Bertrand Tavernier d'après Jim Thompson, ça relance, on refait un petit tirage et on rebalance au public, 40 ans après, un texte qui est absolument scandaleux. Si on faisait ça à Faulkner, par exemple, mais toute l'intelligentsia se lèverait en disant c'est une honte. Or, on n'a pas arrêté de faire ça à des très grands écrivains, et Chandler est un bon exemple, quand même, qui est devenu Oud Achille Hamet. On n'a pas arrêté de le faire, et personne n'a rien dit pendant des années. Au contraire, quand, il y a simplement 5-6 ans, Gallimard refait traduire Hamet, en plus, les critiques leur tressent des lauriers. J'ai envie de leur dire, mais attends, vous foutez du monde. C'est plutôt, ça fait 30 ans qu'on leur disait qu'il fallait retraduire. Pendant 30 ans, vous vous êtes engraissés en vendant un produit avarié. C'est quand même, et en faisant du mal et en abîmant l'image de l'auteur. Faut pas me lancer là-dessus parce non. que
ça y est, vous l'avez énervé maintenant.
Mais quand même là-dessus, François Guérive. Donc, on a évoqué Jim Thompson, le problème des traductions de Jim Thompson. D'ailleurs, dans Rivage Noir, vous donnez de nouvelles traductions d'un certain nombre de ses romans. Jim Thompson, c'est un des auteurs emblématiques de la collection. C'est le numéro 1 de Rivage Noir. On arrive bientôt au numéro 1000. Hein, je pense qu'on doit être à 960, 970 à Rivage Noir. Donc, ça va être un numéro aussi emblématique. Est-ce qu'il pourrait y avoir un clin d'œil au numéro 1000 de la série noire qui était donc en traduction française 1275 âmes de Jim Thompson avec un Rivage Noir numéro 1 qui reprendrait le titre exact de Jim Thompson, c'est-à-dire 1280 âmes.
Oui, c'est une idée, mais enfin là c'est bon, ça fait un peu guéguerre des gangs. Je sais pas. En plus, j'ai vraiment aucune idée. Alors là, de ce que va être le numéro 1000, ça commence à être un problème. Je voudrais pas. Je dirais que non, parce que je ferais pas ça dans le sens où ça serait ou comme un règlement de compte ou comme. Or, c'est pas ça mon propos. Au départ, quand j'ai dit je refais traduire ces livres, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est un peu comme Oliver avec Ross McDonald. Quand même. J'ai pas le choix. Si je veux être honnête avec le client, avec le lecteur, etc., je suis désolé. Je ne peux pas lui donner cette version-là. Alors, bien sûr, il y en a qui l'ont fait et qui ne sont pas gênés. C'est sûr que pour un éditeur, c'est beaucoup moins cher d'aller acheter une traduction que de refaire traduire un livre. Hein. C'est quand même de 1 à 6 ou 7 fois. Donc, mais c'est pas possible. Donc c'est une nécessité.
Hervé.
Donc, puisque vous aimez les livres, vous les respectez, donc vous les faites retraduire l'un comme l'autre quand vous les rééditez et qu'ils demandent cela. François Guérife nous l'a assez bien expliqué pour certains, je crois. Il s'agit également de trouver de nouveaux auteurs. Oliver Gallmeister, dans le secteur anglo-saxon, qui est ton domaine, le secteur américain, comment est-ce que ça se passe? Et je crois qu'il y a un projet qui va se réaliser qui s'appelle Néo-Noir. Est-ce que tu peux nous parler de... Voilà, comment on trouve les auteurs et qu'est-ce que va être Néo-Noir?
Alors, à notre époque, c'est beaucoup plus facile de trouver des livres. Enfin, on trouve pas des auteurs, on trouve des livres et c'est... C'est toujours des formes de hasard parce qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de truc. Mais c'est beaucoup plus facile maintenant que, j'imagine, il y a 30 ans avant Internet, etc. Mais il y a des auteurs qui nous parlent de ce qu'ils ont lu, des amis américains, des blogs, la presse. Il y a plein de choses qui se passent, qui sont très faciles à trouver maintenant. C'est pas, mais fondamentalement, enfin, oui... Fondamentalement, on fouille. Voilà, moi, je passe beaucoup de temps. Mes enfants rentrent dans ma chambre et disent « Tiens, papa, il glande devant Internet. » En fait, voilà, non, je fais des recherches, je lis des extraits de livres, je contacte des éditeurs, j'ai les oreilles ouvertes, je discute avec François, je prends des notes. Il me dit « Tiens, tu devrais lire ça. » Alors, du coup, je lis Elroy et je me dis que je le retraduirai dans 20 ans. Il y a plein de... Non, mais enfin, voilà, on fouille, il n'y a pas de méthode. C'est exactement comme un lecteur, comme vous, quand vous allez dans une librairie. Une librairie, il y a des milliers de livres, et puis vous vous baladez, et puis vous ne savez pas trop ce que vous cherchez, ou vous savez un peu, mais vous allez repartir avec d'autres choses. Et nous, voilà, moi, je ne sais pas comment je trouve les livres, en fait.
Néo-Noir ?
Ah, Néo-Noir, mais en fait... voilà, moi j'aime beaucoup la littérature noire et je pense que dans les collections actuelles chez moi, on fait de la littérature noir, mais qui est lié à la littérature blanche qu'on fait. Alors, c'est un peu bon, vague. Mais là, je voudrais faire des livres vraiment très, très, très noirs. Je pense qu'il y a actuellement aux États-Unis toute une jeune génération d'écrivains, enfin jeunes, ils ont mon âge, qui se réclament justement des auteurs dont parlaient François, des auteurs comme Goodis, McCoy, Hammett, Chandler, Thompson, Larry Brown, qui sont des auteurs qui sont très peu connus aux États-Unis, enfin beaucoup moins que des auteurs moins bons en tout cas. Et je pense qu'il y a plein de jeunes gars qui arrivent à écrire avec la même force, la même voix que ces gens-là, mais qui sont complètement inconnus là-bas, et plus ou moins inconnus là-bas, mais quand même plutôt inconnus, et qui méritent d'avoir un écrin. Une maison d'édition, c'est vraiment une maison. Et on met dans ces pièces, on met des auteurs qui peuvent aller bien et qui établissent une filiation avec des auteurs qu'on a publiés, comme Ross MacDonald ou Larry Brown. Voilà. Je pense que c'est un nouveau... c'est une petite extension à la maison existante. Voilà.
François Guéry, vous, tout à l'heure, vous parliez de coups de chance, de paris. Ces nouveaux auteurs qui arrivent, que vous avez envie de faire découvrir aux lecteurs, comment ça se passe ?
C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est un peu différent. Si c'était plus difficile au départ, c'est plus facile pour moi aujourd'hui. Dans le sens où j'ai quand même un certain nombre d'auteurs que je suis depuis le début et qui sont toujours en train d'écrire. Hein. Je pense à des gens comme James Lieber, j'avais là, ils sont morts, mais Westlake, Elmer Leonard, Elroy, Tony Lerman. Donc, déjà, ne serait-ce que les auteurs que j'ai en catalogue me fournissent un certain nombre de livres. Mais, c'est vrai que je suis toujours ouvert à la découverte, et je suis aussi toujours ouvert à des recherches vers le passé, essayer de trouver des gens qui sont passés entre les mailles du filet. Et parfois on y arrive. Je sais que j'ai publié un auteur néo-zélandais qui s'appelle Ronald Morrison. Je trouve son livre L'épouvantail est magnifique. Je trouve que c'est la nuit du chasseur néo-zélandais. Ou des choses comme ça. Donc, ce que je veux dire, j'ai un corps de travail déjà avec des gens dont je vous parle, Burke et tout, qui est assez important, que je suis. Et puis en même temps, bien sûr, toujours être aussi un petit peu à l'affût.
Alors Hervé va nous quitter, il a malheureusement un train, mais je vous propose de continuer à quelques minutes. Je voudrais revenir sur un chiffre qui a été annoncé. En France, un livre sur trois est un polar. Un livre sur trois, un polar.
Un roman sur trois, un
polar. Donc comment expliquez-vous le succès du genre polar, puisqu'on peut dire qu'il se porte bien vu cette proportion, Oliver Gallmeister?
Oui, je crois qu'en fait, l'édition, c'est un métier où il y a beaucoup de... Je peux pas le dire comme ça. Comment on dirait ?
Si, on peut le dire
non,
comme ça.
Non, mais il y a beaucoup de suivisme. C'est-à-dire qu'en fait, oui, une fois encore, quand il y avait... Voilà, moi, quand j'avais 18 ans et que je lisais les premiers livres de François, que publiait François, au moment où la série noire commençait un peu à décliner et où Rivage prenait son envol, ça intéressait beaucoup moins de monde. Maintenant, toute une génération de lecteurs a grandi avec ces auteurs-là. Donc, pour eux, ça devient plus naturel. Et les éditeurs... Donc, il y a un lectorat, ça, c'est sûr.
Un lectorat qui aurait vieilli, alors, par exemple?
Non. Un nouveau lectorat. Un nouveau lectorat qui... Le lectorat se renouvelle en permanence. Avec plus ou moins de succès, mais globalement, ça se renouvelle. Mais des gens qui ont grandi avec... voilà, comme moi. Pour moi, Elroy, c'est un écrivain. Et c'est... ça fait partie de ma vie. Et c'est classique. Et Rivage Noir, c'est une collection de littérature. Enfin, pour moi, c'est clair. Après, y a plein de gens qui se disent, je crois que les éditeurs suivent un peu aveuglément le cinéma. Alors, il y a eu la période des serial killers dans les années, fin des années 80, début 90, c'était la grande mode. Il y a eu le silence des agneaux. Et là, badaboum, maintenant, il y a un roman sur deux qui est publié. Il y a un type qui coupe une femme en deux. Voilà, mais c'est juste c'est du marketing pur, c'est pas la littérature, c'est pas l'édition. C'est, enfin, quand je dis un livre sur trois qui est un polar, c'est quand même 9 livres sur 10 sont des mauvais livres, hein. Faut quand même pas l'oublier. Donc,
en dehors de Gallmeister et Rivage.
Non, mais il y a des...
François Guérif sur cet aspect, le succès du polar. Mais je pense, bon, on peut parler du succès éditorial en général, mais qui a quand même une incidence sur le succès de vos collections, qui se veulent effectivement des collections peut-être plus littéraires. Pas forcément.
Non, c'est au contraire, c'est plus compliqué. Je dis, il a raison quand il parle de suivisme. Le problème, bon, alors pourquoi il y a de plus en plus de lecteurs de polar? Bon, ben, il y a plein de raisons. J'en sais rien. Moi, je veux dire, j'ai assisté à des débats à Beaubourg de sociologues expliquant que simplement la littérature blanche était de plus en plus emmerdante, alors que le sel noir était de plus en plus excitante ou des choses comme ça. Le problème, c'est aussi un problème éditorial. Je ne suis pas du tout sûr, moi, que le lectorat s'est agrandi en proportion avec les publications. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans un marché en crise, qu'est-ce qui marche encore à peu près? C'est le polar. Alors, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où les gens font ça sérieusement. Mais je dois dire aussi qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui se lancent sur le marché du polar parce que c'est porteur, mais qui n'y connaissent rien et qui, a priori, aussi n'en ont rien à foutre. Et là, de ce côté, du coup, ça rend les choses extrêmement compliquées. Ça fait monter les prix auprès des agents. C'est un peu tout. On confond un peu tout et n'importe quoi. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un vrai intérêt de lecteurs et un renouvellement, en effet, des lecteurs pour le genre, mais encore une fois aussi, par rapport à la réalité éditoriale, je ne pense pas que le nombre de lecteurs se soit proportionnellement accru par rapport à cette production. Et c'est tellement vrai qu'il y a plein de nouvelles collections qui apparaissent et tout, mais enfin, il y a aussi plein de nouvelles collections qui capotent au bout de d'un an ou de quelques mois.
C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le western. Ça fait 30 ans que tu en publies.
Oui. Ouais.
Ça fait 30 ans que François publie du western. Moi, c'est un genre que je ne connaissais pas avant de connaître François. C'est lui qui m'a fait lire un certain nombre de choses, etc., que j'ai publié. Et maintenant, on va compter bientôt sur le doigt d'une main le nombre d'éditeurs qui ne fait pas de western. Il y a eu des pages et des pages dans la presse à l'automne dernier. Maintenant, tout le monde en fait. Mais c'est purement du suivisme. Il n'y a pas plus d'écrivains de western maintenant qu'il y en avait avant. C'est juste une sorte de... Les gens regardent Dexter et ils oublient que voilà, des flics tueurs en série, il y avait déjà ça chez Elroy, il y avait déjà ça chez Thompson. Parce que, voilà.
Alors, je voudrais revenir sur un autre aspect du roman noir. On dit souvent que c'est un roman témoin de son temps. Donc vous éditez ce type de roman. Est-ce que vous avez le sentiment de vous inscrire dans la contribution au développement d'une littérature d'expression populaire, de critique sociale?
Bah, oui, bien sûr, c'est un roman de critique sociale, mais j'allais dire, c'est pas aussi un nouveau débat. Je cite volontiers toujours Victor Hugo, hein, celui qui ne pense pas vit dans l'aveuglement, celui qui pense vit dans l'horreur, nous n'avons que le choix du noir. C'est le monde autour de nous, je veux dire. C'est le monde, c'était déjà le monde autour des Misérables. C'est pour ça que j'ai mis dans la liste Les Misérables, dans la liste des romans noirs. Bien sûr, je pense que c'est le genre qui reflète sans doute le mieux le monde et le monde social. Quand vous êtes gamin, enfin à l'époque, maintenant je crois qu'ils sont plus cyniques, mais quand j'étais à l'école, on me disait, regarde petit, le monde il est vachement beau, c'est une très très belle façade, c'est magnifique, le ciel est bleu et tout, et puis le roman noir, il disait non, pas du tout, attends, derrière la façade, le mur il est complètement pourri, il y a des choses qui vont pas, et il y a des choses qu'on cache, parce que ces choses-là font mal. Et le rôle du roman noir, bien sûr, c'est justement au contraire d'aller mettre le doigt sur ce qui fait mal et de le montrer au public. Et ce qui fait mal, eh ben évidemment, obligatoirement, c'est social. C'est l'injustice, c'est le racisme, c'est l'humiliation, c'est la violence, en fait, tout ça, obligatoirement. Donc oui, par définition, le roman noir est... Manchette avait une jolie expression, il disait le roman noir américain est un roman policier d'intervention sociale.
Oliver Gallmeister.
Oui, moi, j'irais même plus loin, je pense que outre voilà, le racisme, l'injustice aussi, c'est surtout un roman à portée métaphysique qui parle de la noirceur de l'âme humaine, donc il y a forcément une forme d'universalité. Et pour aller plus loin, je pense sincèrement, je réfléchis, mais je crois que toute bonne littérature est au moins en partie de la littérature noire. Je sais pas s'il y a eu de grands romans qui soient des romans sur des gens heureux, ou sur des gens qui n'ont pas de problème, ou sur des gens qui ne sont pas confrontés à des situations quelque part obscures. C'est ça qui nous attire, c'est ça qu'on cherche à comprendre. Madame Bovary, ça serait un roman noir. Dostoïevski, c'est évident. Les tragédies grecques, ça fait pas un pli. Hamlet, enfin, vous voyez, donc je sais pas. Je crois que c'est pour ça que c'est un débat un peu compliqué, mais je crois qu'il y a du noir un peu partout.
Je trouve qu'il y a des livres heureux quand même, qu'il n'y a pas du noir partout. J'ai oublié son nom. C'est l'auteur finlandais notamment qui a écrit Le Lièvre de Vatanen. Bon,
Pasilina.
C'est quand même des livres où l'âme humaine est profondément bonne, même s'il y a des problèmes.
C'est vrai, il y en a quelques-uns.
Il y en a quand même quelques-uns.
Mais globalement, quand même, il y a beaucoup plus de. Les grands noms de la littérature mondiale, tu prends Faulkner, Dostoïevski. Tolstoï, qui est moins noir que Dostoïevski, mais qui est quand même noir aussi.
Victor Hugo,
pour ne pas le citer. C'est quand même pas mal de gens qu'on pourrait mettre dans nos collections.
Oui, 3/4, hein.
Alors, on va parler justement, avant de nous quitter, de vos collections et surtout d'un coup de cœur de lecteur-éditeur que vous pourriez faire partager à nos auditeurs. Oliver Gallmeister.
J'ai pas compris la question, excusez-moi.
Le roman que vous avez envie de défendre, l'auteur, le roman là, qui vient de sortir chez vous, que vous allez sortir.
Je sais pas faire, mais moi, dans le catalogue de François, celui qui est mon chouchou, alors je pense qu'Elroy est le plus grand. Pour ceux qui l'ont pas lu, il faut lire Elroy. Mais moi, mon chouchou, c'est James Lee Burke. Voilà, je pense qu'il faut lire Les Aventures de Dave Robichaud, qui est. Donc, commencer par le premier, c'est quoi ? Tomber du ciel ? Prisonnier du ciel ?
Non, le premier, c'est La pluie de néon.
La pluie de néon, voilà. Voilà. Moi, je pense que c'est un des. Je pense que Dave Robichaud est un des plus grands personnages de la littérature américaine contemporaine.
Oui, mais dans votre actualité éditoriale à vous, il n'y a pas un.
Y a pas mais un... j'ai pas envie de répondre à ça.
Bon, d'accord. François Guéry.
Ça va forcer François à répondre à ma place. C'est plus facile.
Ils sont tous. Tout ça conseillé. François Guérif.
Oui, écoutez, je vais parler de moi, mon dernier coup de cœur. C'est une Canadienne que je publie qui s'appelle Émilie Saint-John Mandel. Et c'est un livre qui s'appelle Dernière nuit à Montréal. Parce que je n'ai pas honte, je dis que quand j'ai fermé le livre, j'avais les larmes aux yeux et que c'est un livre qui m'a profondément touché.
Eh bien, merci. Donc, je vous invite, si vous voulez. Parcourir le parcours et puis les lectures favorites de François Guérif, de le retrouver dans les entretiens qu'il a menés avec Philippe Blanchet, ça s'appelle Du Polar chez Manuel Payot, donc François Guérif, et puis, bien entendu à retrouver nos deux invités dans leurs différentes collections qui représentent en fin de compte une part importante de leur goût forcément littéraire et de ce qu'ils ont envie de faire partager au public. Merci François Guérif, merci Oliver Gallmeister. Il est 17h57, ce rendez-vous en direct du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale sur Radio PFM se termine, tout comme le Salon qui se termine d'ici une heure. Il y a encore, si vous êtes derrière le poste et si vous n'êtes pas très loin, il y a encore un débat qui va débuter à 18h au théâtre, un débat colère sur les littératures réelles autour de la figure de Jean Becker, à l'occasion du prix Jean-Abila Becker qui est décerné depuis 10 ans dans le cadre de ce festival. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre participation. à la fois le public présent, à la fois bien entendu encore une fois François Guérif et Oliver Guymaster, les techniciens Boris, Bernard, Nico, tous les bénévoles de Radio PFM et l'association Colère du présent qui nous permet donc de vivre ces moments passionnants. Merci, au revoir.
Merci.